L'église bousculée. Un risque ou une chance? Les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, un chemin de liberté. Maïté Irazoki.
Nous commençons cet après-midi avec la présentation de Maïté Irazoki. Elle a une triple formation, si on peut dire, en lettres, en droit et en sciences de l'éducation. Sa carrière professionnelle s'est déroulée dans l'enseignement catholique. Professeur de français, chef d'établissement à Pau, puis directrice interdiocésaine de tous les établissements catholiques des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, elle a été directrice générale des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des Servantes de Marie à Anglette. Puis elle a pris sa retraite, mot bien mal trouvé pour elle. Sa retraite l'a menée en effet vers les études de théologie au sein de
la
et vers Cotopaïs, le centre spirituel jésuite, dont l'épicentre est à Toulouse. Elle est donc engagée dans Cotopaïs Bayonne, dans une équipe de 10 personnes, dirigée par Claire Canin et suivie par le jésuite Bernard Mandibourg. Ce groupe est chargé de préparer des haltes spirituelles, des retraites, des pèlerinages, des temps de réflexion et de débat dans le cadre des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola. Pendant 3 ans, elle a suivi une formation pour faire de l'accompagnement spirituel tel que le définit Ignace de Loyola, les études de théologie, ainsi que l'oraison quotidienne selon la méthode ignatienne, sont pour elle des points d'appui indispensables dans ce compagnonnage. Et c'est dans le cadre de cet engagement au sein de Cotopaïs qu'elle intervient dans la session. Je vous donne la parole.
Merci. Bonjour, Rachel de Rondemeli. Pour ne pas m'empêcher, bien entendu. Alors, comme c'est un moment délicat de la journée, et que je vais vous parler de Saint Ignace de Loyola, qui est très attentif à la liberté. Vous avez donc la liberté de dormir un peu, n'ayez aucun scrupule. Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, un chemin de liberté, donc c'est le titre que, avec Isabelle Pauvel, nous avons donné à cette intervention. L'Église catholique est en effet bousculée actuellement, suite en particulier aux problèmes de pédophilie au sein du clergé. Elle est bousculée aussi par les courants qui conduisent les jeunes prêtres à des formes de rituels que la génération d'avant le Concile Vatican II avait écartées. Elle est bousculée également par un pape qui exprime et vit sa préférence pour les pauvres au milieu des riches réalités de l'État du Vatican. Elle est bousculée aussi par les demandes réitérées et pressantes des femmes qui portent une grande partie de la vie de l'Église tout en ayant très peu accès, voire pas du tout, aux fonctions d'autorité. Elle est bousculée par la lettre du pape François au peuple de Dieu qui nous demande d'agir en tant que peuple de Dieu et de lutter contre le cléricalisme qui peut être source d'abus de pouvoir. Bousculer risque ou chance, interroge le titre de cette session. Étant impliquée dans l'association Cotopaïs, qui veut dire présence et action ignatienne dans le sud-ouest, Païs, Isabelle m'avait donc sollicité pour parler de l'accompagnement spirituel. Mais le titre de la session, titre venu par la suite, a fait modifier la commande pour arriver à ceci, les exercices spirituels, un chemin de liberté. En quoi ceci peut-il entrer dans la problématique de l'Église bousculée? En quoi Ignace de Loyola a-t-il quelque chose à dire dans cette réalité actuelle d'une Église bousculée? C'est l'histoire qui va donner un élément de réponse. Puis, la spiritualité vécue par Ignace, qui partage dans les exercices spirituels son expérience vers la liberté. L'Église, au temps d'Ignace de Loyola, nous sommes en décembre 1491, quand naît Inigo à Loyola, au village d'Azpeitia, en Guipuscoa, Pays Basque Sud. Quelques mois plus tard, en 1492, ce sera la découverte de l'Amérique et la grande aventure espagnole dans la conquête du monde. 13 ans auparavant, en 1478, avait débuté une opération de grande envergure pour chasser tout risque d'hérésie dans l'Église catholique, l'Inquisition. Ignace, il a 30 ans, lorsque Luther est excommunié en 1521. Réforme et contre-réforme vont se parler par voie d'accusation et d'anathème. Le Concile de Trente débute en 1545. Ignace connaît aussi la controverse de Valladolid, où il s'agissait de déterminer si les gens, entre guillemets, découverts en Amérique, avaient une âme. En 1555, l'empereur Charles XV souhaitait définir comment devaient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde, quelle attitude avoir avec les Indiens. L'esclavage avait déjà été condamné par Charles Quint et par le pape Paul III, sauf pour l'Afrique. Et Ignace constituera la compagnie de Jésus en 1539. Cette époque du temps d'Ignace était donc, en effet, une période de bouleversement puissant dans plusieurs domaines. Au cours de sa vie, d'Ignace, longue de 65 ans, Ignace reconnut 11 papes, dont Alexandre VI Borgia, plus connu par sa vie de richesse et de peu de considération des femmes qu'il mettait dans son lit, et par le système des indulgences mis en place pour collecter des fonds afin de faire construire la basilique Saint-Pierre. Dom Paul III Farnèse, de très riche famille italienne, père de 3 enfants. Dom Paul IV Carafa, très opposé aux Juifs, chef de l'Inquisition, à qui on attribue cette phrase, ouvrez les guillemets, même si c'était mon père qui était hérétique, je ramasserai du bois pour le faire brûler, fermez les guillemets. Ce 16e siècle est donc dans un état de bouleversement où les découvertes géographiques entraînent des questions de société, où les mœurs lient étroitement richesses et pouvoirs en tout genre, dont celui d'une sexualité masculine qui se sert de la sexualité féminine, et où l'histoire passe du Moyen-Âge à l'époque moderne. Là-dedans, les exercices spirituels, un chemin de liberté. Comment se positionne Ignace de Loyola dans cet environnement? Et comment les exercices spirituels sont-ils un chemin de liberté? Ignace de Loyola ne rêve pas d'une autre église idéale ou primitive, écrit dans son livre Jean-Claude Dautel. Il pense à l'Église visible de son temps, à tous les échelons de la hiérarchie. On peut s'étonner d'une certitude aussi tranquille, alors qu'une vague de contestations sans précédent déferle sur l'institution ecclésiale. Et non sans raison. Ignace a devant lui une Église souillée par les mœurs de ses chefs et corrompus par l'argent, tandis que des chrétiens sont abandonnés comme des brebis sans pasteur. Il est lucide sur la nécessité d'une réforme qui doit commencer par le sommet. 3 choses lui paraissent nécessaires et suffisantes, rapporte un témoin, pour qu'un pape réformât le monde. Premièrement, qu'il se réformât lui-même. Deuxièmement, qu'il réformât sa maison, le Vatican. Troisièmement, qu'il réformât la cour et la ville de Rome. Il est à noter que pour Ignace, la réforme de l'Église passe d'abord par la conversion personnelle. Ceci étant valable non seulement pour le pape, mais pour chacun d'entre nous. Une conversion personnelle par cette dynamique des exercices. Exercice veut bien dire ce que ça veut dire. On s'exerce. Ce sont des exercices que l'on pratique. Dans l'histoire d'Ignace, lors de sa blessure à Pampelune, au siège de Pampelune, et durant sa convalescence, sa belle-sœur, parce que sa maman était décédée tout de suite après sa naissance, sa belle-sœur n'avait à sa disposition que peu de livres, dont La vie des saints. À leur lecture, Ignace fait l'expérience des mouvements de son âme, qu'il appelle les mentions. Alors, une mention, c'est un mouvement spirituel accompagné d'une pensée. Ce n'est pas seulement un sentiment. Tout mouvement affectif n'est pas une émotion spirituelle. Il a constaté que les livres de chevalerie enthousiasmaient son ambition et son désir de grandeur et le rendaient heureux. Mais cet élan s'estompait rapidement. Les lectures de la vie de Saint Dominique ou de Saint François enthousiasmaient son désir, exaltaient son âme, lui donnaient envie de faire plus qu'eux. Et cet élan demeurait. Voici ce qu'il écrit. « Quand je pense à ce qui est du monde, je m'y complais beaucoup. Mais quand je suis fatiguée et que je cesse d'y penser, je me trouve aride et insatisfait. En revanche, quand je rêve d'aller à Jérusalem nu-pied, de ne plus manger que des herbes, de me livrer à toutes les austérités comme les saints, non seulement j'éprouve de grands élans intérieurs quand je médite sur des pensées de ce genre, mais même après les avoir quittées, je reste satisfait et allègre. » Fermez les guillemets. Les études théologiques qu'il fait à Paris lui font rédiger le principe et fondement comme un cadre général qu'il donne au discernement. Il écrit « L'homme est créé pour louer, révérer, servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. La première expérience spirituelle d'Ignace a été la mise à jour de ce désir fondamental. » Le désir, fermez les guillemets, le désir qu'il ressent de faire de grandes choses dans sa vie, d'être un chevalier de grand courage et noblesse, ou d'être un saint à la hauteur de Dominique ou François d'Assise, ou davantage, est un désir qu'il veut honorer. Il accueille donc ce qu'il veut faire de sa vie et choisit ce qui sera davantage au service de Dieu. Il faut bien retenir ce mot pour lui, davantage, mars. Cet adverbe est important dans les règles du discernement qu'il met en place. En effet, dans le discernement, on choisit entre deux choses bonnes pour aller vers un davantage. Pourquoi deux choses bonnes? Parce que la loi civile et la loi religieuse sont là pour distinguer ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc il ne s'agit pas de distinguer dans le discernement ce qui est bien ou ce qui est mal. Là, les lois nous aident à faire cette distinction. Quand on parle de discernement dans Ignace de Loyola, c'est discerner entre deux choses bonnes en veillant à choisir ce qui est davantage pour le Seigneur. Et c'est dans tout, alors c'est ce qu'il écrit dans son principe et fondement. Il insère dans cet article en tout ce qui est laissé à notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu tant par la loi civile et la loi religieuse. Ignace dit donc en quelques mots le désir que tout être humain a de Dieu, car tout vient de Dieu. Ça c'est le principe, et tout aspire à Dieu, fondement. Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Ceci établi, il donne le chemin pour parvenir à ce but de la vie de tout être humain qui est de louer, révéler et servir Dieu. C'est le numéro 21 des exercices. Et les exercices sont là pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie sans se décider par quel attachement qui serait désordonné. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le jésuite Édouard Guégan écrit ceci. Le 25 mars 1522, Inigo de Loyola, faisant route vers la Terre Sainte, puisqu'il voulait aller à Jérusalem, arriva en Marès, une petite bourgade proche de Barcelone. Il était âgé de 31 ans. Cette simple halte devint pour lui pendant près d'une année le haut lieu d'une expérience spirituelle dont les différentes étapes sont à l'origine des exercices. Avant de reprendre la route, Ignace avait noté dans un cahier certaines choses qui pourraient permettre à d'autres, par la suite, de profiter et de refaire avec la grâce de Dieu sa propre expérience. Au cours des années qui suivirent, il ne cessa de reprendre et de compléter ses notes, rédigées en espagnol, jusqu'à leur donner à Rome, environ 20 ans plus tard, la forme achevée que nous leur connaissons actuellement. La dynamique des exercices sera de reconnaître qui est Dieu qui nous a tout donné et qui nous sauve. Ce sera d'éprouver cet élan du cœur pour l'aimer en retour, désirer le suivre, le choisir à chaque moment et par là, se libérer des attachements désordonnés. Alors, désordonnés dans le langage d'Ignace, ça veut dire qu'ils ne sont pas ordonnés au but à atteindre, devenir libre d'aimer totalement et de mener sa vie dans le sillage du Christ. Dieu ne lui apparaît pas comme nécessaire à son bonheur. Quelquefois on dit, mais comment est-ce que ces personnes-là, elles font pour être heureux? Est-ce qu'on peut être heureux sans Dieu? C'est d'ailleurs un des devoirs du cours de philosophie que nous avons à faire. Mais ce n'est pas ça qu'il va rechercher, de la même manière que ce n'est pas non plus par rapport aux fragilités. Dieu ne vient pas combler des fragilités ou des manques ou des frustrations. Ignace, il a son rêve. Il a ses ambitions, il veut pouvoir les accomplir, comme dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je choisis tout ». Il prend les moyens pour cela. Par exemple, lorsqu'il était blessé, 1500, et lorsqu'il était blessé, il n'y avait pas d'anesthésie. Et donc, on lui a cassé la jambe parce qu'il trouvait que sa jambe, dans la réparation, n'était pas assez droite. Donc, il a demandé qu'on recasse la jambe parce que lui, il voulait être un gentilhomme et plaire aux dames. Donc, il a pris les moyens, celui-là il est peut-être excessif, mais enfin, il a pris les moyens pour arriver à ce qu'il souhaitait. Dans sa vie spirituelle, il fait la même chose. Il découvre que Dieu vient ajouter un surcroît de gratuité. Alors pour lui, qu'est-ce qui est mis en avant? D'abord, c'est le fait de se tourner résolument vers Dieu, de le préférer. Donc c'est une préférence, c'est un davantage vers Dieu. Deuxièmement, comme tout amour, cela passe par une victoire sur soi-même, en mettant l'autre, la personne autre, en premier. Troisièmement, le travail de se vaincre soi-même par l'écoute de Dieu, et par l'expression d'un consentement libre, c'est-à-dire non attaché à quelque chose de pas en ordre. Et enfin, c'est la reconnaissance que Dieu seul, en définitive, fait vivre. C'est un acte de foi dans le sens de l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, et par là sauver son âme. Ce principe et fondement qu'il a établi est la boussole, selon lui, de la vie chrétienne. Le but de la vie et de l'être humain étant de louer, révérer, servir Dieu, il s'agit donc d'ordonner les décisions dans cette direction. Il s'agit de se déterminer pour Dieu. Ordonner, mettre dans un ordre, c'est un mot important dans les exercices, comme un davantage tout à l'heure, il y a davantage et il y a hors de nous. De même que le récit de la Genèse parle de mise en ordre dans le chaos, Ignace préconise que chaque préambule du temps de prière demande la grâce que les intentions, les pensées et les actions soient ordonnées pour louer, révéler, servir Dieu. C'est une grâce que l'on demande à chaque début de prière. À qui veut faire des exercices spirituels, la première chose que demande Ignace, c'est de faire sien devant Dieu, de devenir, ce désir de devenir responsable de son histoire, en sorte que sa liberté, loin d'être commandée par des structures établies, soit sans cesse provoquée à mettre en œuvre ses facultés propres d'engagement, les intentions, de réalisation, les pensées, et d'accomplissement, les actions. Tout cela pour une liberté intérieure. Dès son changement de vie, le désir d'Ignace est d'aider les âmes. Il aurait pu dire aider à prier, à se dévouer, à se mortifier. Cela aurait été bien reçu dans ces temps de réforme de l'Église. Mais il a proposé des exercices spirituels pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie sans se décider par aucun attachement qui soit désordonné. Il s'agit bien d'une pédagogie de la liberté et du discernement. Toute sa vie, Ignace a donné à la personne la première place, et quand il fonde la compagnie, il rappelle l'importance qu'il entend donner à la formation personnelle et à la loi intérieure de la charité et de l'amour que l'Esprit-Saint écrit et imprime dans les cœurs. Le discernement porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur deux choses bonnes, et la préférence est faite par rapport à Dieu. Si je donne un exemple, souvent on va rencontrer des personnes très généreuses, qui vont faire beaucoup d'actions en faveur des pauvres, des voisins, des personnes malades, des personnes âgées, des migrants. Vous avez des personnes qui sont sur tous les terrains de la générosité. Les exercices spirituels vont permettre à cette personne de déterminer le fondement de son action. Est-ce que le fondement de sa décision d'aider, c'est Dieu? Est-ce que c'est sa propre image? Est-ce que c'est sa réputation? Est-ce que c'est son désir d'avoir un pouvoir sur les autres? L'exercice va consister à clarifier cela, toujours à partir de la parole de Dieu. Est-ce que c'est par amour de Dieu, ou est-ce qu'il y a un attachement qui sera désordonné, qui ne sera pas dans le bon ordre? C'est-à-dire un attachement qui n'est pas d'abord Dieu en premier. La liberté à laquelle conduisent les exercices est celle qui consiste à choisir Dieu par amour, en réponse à son amour qui est premier, et à déterminer le motif réel, profond, des actes posés. Ainsi, je me souviens lors d'une retraite d'une personne, tout bien, va régulièrement à la messe, elle fait le catéchisme, elle élève ses enfants de son mieux, elle a une vie sacramentelle régulière, lit l'évangile. Au cours de la retraite, cette personne, en faisant les exercices, constate qu'elle fait tout par devoir, par obligation, pour éviter toute critique, au point qu'elle est devenue auto-référente pour regarder les attitudes des autres. C'est l'écoute de Dieu dans sa parole vivante qui lui permettra de regarder la boussole de sa vie chrétienne et de suivre son orientation. La liberté intérieure n'est pas acquise une fois pour toutes et elle n'est pas un but. Elle est un moyen pour louer, révérer, servir Dieu qui est la seule finalité. Ça, c'est le combat de toute la vie. Ignace va donner l'image de l'étendard du Christ. Cet étendard que l'on suit dans les champs de bataille, cet étendard que l'on suit dans une manifestation pour se repérer et pour montrer de quel côté on est, pour montrer pour qui on combat. Ça peut être les gilets jaunes, ça peut être les bonnets rouges, ça peut être autre chose. Il y a souvent une couleur. Donc Ignace invite à repérer et à choisir à tout instant l'étendard de Jésus-Christ pour le suivre et celui de Satan pour le fuir. Selon saint Ignace, il existe des signes de la présence de Satan. L'orgueil, la confusion, le mensonge. Et des signes de la présence de Jésus, humilité, confiance, patience. Et c'est à ces signes que le combat de la foi doit être attentif en vue d'un choix de vie conforme à la vie du Christ. Alors l'Église dans les exercices spirituels. Ignace et ses premiers compagnons avaient fait vœu à Montmartre le 15 août 1534 de vivre dans la pauvreté et au service des hommes et des femmes, si possible à Jérusalem, sinon de se mettre au service du pape. Ils sont reçus par le pape Paul III en novembre 1538 et s'offrent à lui pour toute mission qu'il voudra bien leur confier pour la gloire de Dieu et pour être utile aux âmes. Ce leitmotiv guide certainement ses propos quand il écrit au numéro 362 des exercices, il écrit ceci. Là, par contre, je vous demande toute votre attention. Là, vous pouvez vous réveiller. Nous devons être plutôt prêts à approuver et à louer aussi bien les décrets et les ordonnances que la conduite de nos supérieurs. Car... Donc vous êtes réveillés, c'est bon. Car, bien que la conduite de certains ne soit pas ou n'ait pas été louable, parler contre elle, soit dans des prédications publiques, soit dans des entretiens en présence des gens simples, engendrerait plus de médisance et de scandale que de profit, toujours le davantage. En effet, le peuple s'indignerait alors contre ses supérieurs, aussi bien temporels que spirituels. Cependant, de même qu'il est nuisible de parler mal des supérieurs en leur absence aux gens simples, de même, il peut être profitable de parler de leur mauvaise conduite aux personnes qui, elles, peuvent y porter remède. La lucidité, la clairvoyance, la critique vis-à-vis des supérieurs sont à exercer avec prudence afin de ne pas choquer les gens simples. De même qu'il dira que nous devons chercher à sauver la proposition de l'autre ou chercher ce qui, dans la proposition du frère, peut être sauvé, la relation avec la hiérarchie est aussi à considérer en cherchant ce qui donnera plus de profit sur le chemin de la spiritualité, le davantage est ce qui fait la différence entre deux attitudes. Parler contre quelqu'un en public peut être source de médisance et de scandale. Parler de leur mauvaise conduite aux personnes qui peuvent y porter remède peut être profitable. Le discernement est convoqué afin d'agir avec profit pour la gloire de Dieu. Il convient de parler en bon lieu à la bonne personne. L'accent est mis sur la capacité de jugement en cherchant le meilleur profit. Cette question de ce qui est profitable, de ce qui est davantage pour la gloire de Dieu, est ce qui va aider à déterminer la motivation qui guide une orientation. Que cherche-t-on quand on parle ou quand on se tait? Quel esprit m'anime quand je parle d'un supérieur et quand je me tais? Quand je me tais devant le supérieur qui peut remédier? Quand je parle aux gens qui ne peuvent remédier? Et inversement. Pour conclure, l'époque de la vie d'Ignace a été mouvementée. Et ce qu'il préconise, c'est l'écoute de la parole de Dieu avec la boussole de son principe et fondement, l'homme écrit pour louer, révérer et servir Dieu. Les exercices spirituels sont un chemin, une manière de s'exercer dans la vie spirituelle afin d'être à l'écoute de Dieu. Dans une église bousculée, Dieu parle, car une église bousculée est certainement le signe qu'elle est vivante, qu'elle prie, qu'elle réfléchit, qu'elle agit, qu'elle se met en question. Si elle était totalement tranquille, ce pourrait être le signe qu'elle est déjà au ciel, donc morte, ou bien qu'elle est amorphe, donc sous l'emprise du mauvais esprit. Bousculée et consciente qu'elle est bousculée est une occasion bienvenue de réajustement à Dieu. Bousculée est aussi un risque de chute, comme pour toute personne qui perd son équilibre dans une bousculade. Il peut s'en suivre une fracture, des hématomes. Il peut s'en suivre aussi des accusations. Il m'a poussé. Plus souvent, elle m'a poussé. Sans remise en question. Il peut y avoir aussi des douleurs psychiques, plus difficiles à voir, mais réelles, et qui ne sont pas à négliger. Oui, il y a risque et il y a chance. La vie, elle est dans cette tension qui nous garde éveillés, en recherche, en vigilance, à l'écoute de l'Esprit-Saint qui agit en nos cœurs et nous laisse des traces de son passage. Dans la lettre aux Galates, saint Paul, on ne peut pas l'éviter aujourd'hui, précise les fruits de l'Esprit: amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est cette écoute de l'Esprit en nous et dans le corps ecclésial qui se laisse repérer par ses fruits. Autant de fruits que nous sommes invités à reconnaître et que nous ne pouvons nous donner individuellement ou collectivement à la force du poignet. Une église bousculée, c'est l'occasion d'une conversion personnelle et d'une écoute attentive de l'Esprit-Saint qui nous envoie proclamer la bonne nouvelle.